When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2012 et c'est l'épisode numéro 94. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous prenons toute l'actualité tech qui a occupé nos yeux et nos oreilles ces deux dernières semaines. Nous la compressons en une sorte de boule facile à digérer et nous vous la servons sur un plat en argent pour une meilleure consommation, plus agréable et plus digeste. C'est un beau résumé, je pense. Je suis avec Jeff aujourd'hui. Comment vas-tu, Jeff ?
Ça allait bien jusqu'à ce que tu fasses cette espèce d'image un peu grosse, de gross, comme on dit ici.
Oui, un peu dégueulasse.
Fait, parce que je mais pensais non, que mais non. La boule... Bah. Mais bon, à part mais ça, tout va bien.
Mais regarde, dans cette boule à digestion facile, il y a du Apple versus Samsung, il y a des mots de passe sous assaut des hackers, il y a du Twitter qui transforme son écosystème et qui énerve une bonne partie des développeurs. Ça fait quand même des choses délicieuses, non?
Ouais, mais je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à l'île aux enfants et au gloubi-boulga de Casimir, et franchement, j'ai juste de déjeuner, ouais, c'est pas cool.
Un gloubi-boulga tech.
Et quand même, un bonus pour moi d'avoir mentionné gloubi-boulga sur le rendez-vous tech.
Ouais, ouais, non, mais c'est pas mal. Je crois que ça fait, ça finira dans le titre, ça.
Et si vous savez pas ce que c'est veut dire que vous êtes trop jeune, c'est pas grave.
Exactement. Ah, bon sang, mais il doit y avoir plein de gens qui savent pas ce que c'est que le gloubi-boulga. Ah là là. Bon, big up aux anciens qui savent de quoi il s'agit. Donc, on a dans les trois infos à retenir, trois assez gros morceaux, avec le premier qui est la fin de la première saison, parce que c'est pas la fin de la série, mais la fin de la première saison de la saga Apple versus Samsung, parce que vendredi dernier, il y a quelques jours de ça, tous les blogs tech ont été surpris d'apprendre que les jurés avaient déjà atteint leur verdict dans le procès Apple contre Samsung. On imaginait que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça, et en fait, ils sont arrivés à prendre un bon paquet de décisions sur le procès. Alors vendredi, donc tout le monde s'est précipité l'endroit où on rend un jugement, où on fait un procès, le tribunal, voilà, c'est ça, la salle d'audience du tribunal. Et il y a eu une chouette effervescence sur Twitter, sur Google+, etc., sur Facebook. C'était assez marrant. Je sais pas si toi t'étais devant ton écran ou devant ton téléphone. Si, t'as même fait un ou deux commentaires, Jeff.
Ouais, j'étais en live.
C'était vraiment sympa, franchement. C'était une ambiance comique, je dirais, une ambiance où tous les gens qui sont passionnés par ce genre de truc ont pu être réunis par les réseaux sociaux et en particulier bien sûr par Twitter et discuter de la chose en live, discuter des différents articles, et on a suivi vraiment élément par élément du jugement parce que c'était assez long, ça a duré peut-être une heure et demie. Et franchement, c'était marrant. Sur ça, c'était déjà un moment sympathique, je dirais.
Ouais, il y avait un bon portage des blogs qui sont spécialisés. T'avais donc les informations qui se rafraîchissaient en temps réel. Alors que Twitter, c'était vraiment de la synthèse. Là, tu voyais vraiment coup par coup, patente par patente. Donc c'était super douloureux, mais c'était intéressant à voir, quoi. Et en plus, il se trouvait que la juge, le juge Co, qui avait une certaine y a un certain humour qu'on a vu au travers du procès, rajouter un petit quelque chose, une petite épice en fait, un sujet qui est autrement assez chiant, où elle a fait des sorties qui étaient quand même pas mal, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Donc l'une des sources principales qu'on a suivi, c'était The Verge, qui comme d'habitude, The Verge qui a commencé il y a quoi, 6 mois peut-être un petit peu plus, et c'est devenu vraiment une référence du monde tech, hein. Ils ont réussi à s'établir comme l'un des gros blogs tech, parce qu'ils ont toujours une couverture des événements qui est très pointue et très écrite, je dirais. Donc, comme quoi, on peut encore faire des choses dans ce monde qui est un petit peu surchargé. Et il y avait évidemment énormément d'autres blogs qu'on a suivis en même temps, et on a discuté avec tout le monde, etc. Je voudrais... Bon, donc on va partir sur les questions de verdict spécifiques, et sur les analyses qu'on peut en faire, et sur les conséquences que ça peut avoir pour les utilisateurs. La chose que j'aimerais éviter autant que possible, c'est le fait de se perdre dans des questions de... Est-ce que les jurés ont eu raison de faire ça? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est dégueulasse pour Samsung, ou c'est vraiment trop bien fait pour Samsung, ou Apple c'est des enfoirés d'avoir fait ça, ou alors Apple c'est vraiment, ils ont vraiment raison d'avoir, enfin on a vraiment raison d'avoir eu cette décision de justice dans ce sens-là. C'est, comment dire, sur Twitter et partout ailleurs, on a eu énormément de gens qui ont commenté la chose, et il y a beaucoup de gens qui commentent sans vraiment comprendre le pourquoi du comment de toute cette histoire. Et c'est vraiment un piège qu'il faut éviter, parce que c'est une histoire complexe, comme on le dit depuis le début, hein, depuis qu'on parle de cette saga de l'été, c'est une histoire qui est très complexe et qui repose sur des mécanismes juridiques précis. C'est pas aussi simple que de se dire... Apple, c'est des enfoirés de faire un procès. Samsung, c'est des enfoirés parce qu'ils ont copié l'iPhone, etc. C'est pas juste ça. On parle vraiment de brevets très spécifiques, et on parle de dommages qui ont été faits à l'une ou l'autre des marques qui sont eux aussi très spécifiques. On parle par exemple de trade dress qui est l'aspect d'un produit qui peut amener une confusion chez les utilisateurs. Et on remarque par exemple que sur certains aspects... Les jurés ont jugé que effectivement ils ont voté en faveur d'Apple, mais sur d'autres ils ont dit qu'il n'y avait pas d'infraction. L'un des exemples précis que je voudrais prendre, c'est celui des téléphones et des tablettes. Sur les téléphones, ils ont été plutôt durs envers Samsung, même très durs, on va y revenir. Sur les tablettes, par contre, ils ont estimé que ça n'était pas le cas. Donc, ils ont pris certaines choses... Bon, revenons aux décisions spécifiques un petit peu plus tard, simplement pour dire, pour ceux qui n'ont pas suivi la chose, j'imagine que c'est difficile de ne pas avoir suivi la chose parce que ça a été relayé partout, mais le procès est clairement tombé en faveur d'Apple. C'était au fur et à mesure que les décisions étaient énumérées, on voyait sur Twitter des commentaires intéressants du type « Ouh là là, Samsung doit avoir mal aux fesses »,« Waouh, c'est fini, Samsung a perdu le procès »,« Ouf, ça fait mal pour Samsung », etc. Au final, ils ont établi que Samsung avait été coupable, entre guillemets, d'infraction de brevet et d'infraction surtout intentionnelle et voulue de brevets sur une bonne partie des éléments. Et ils ont attribué à Apple la somme rondelette d'1 milliard de dollars, à environ, hein, à plus ou moins, 1 milliard de dollars. Il faut noter qu'il y a quelques décisions qui n'étaient pas cohérentes, c'est-à-dire qu'ils ont estimé que Samsung n'avait pas enfreint certains brevets et ils avaient quand même assigné des dommages pour ces brevets-là sur certains téléphones. Donc il a fallu réduire un tout petit peu, mais de presque rien, genre 1 ou 2 millions la somme totale. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le verdict est clairement en faveur d'Apple, enfin c'est indéniable, clairement en faveur d'Apple et en défaveur de Samsung. Sur ce point déjà, un commentaire peut-être, Jeff?
Ce à quoi les gens s'attendaient éventuellement, c'était un verdict un petit peu four et moulin, c'est-à-dire un peu pour Apple, un peu pour Samsung, un peu pour Apple, un peu pour Samsung. Et en fait, ce que l'on a vu, c'était que c'était très orienté Apple, puisque Apple a eu quasiment la totalité de ses claims, et là où Samsung avait des counterclaims, donc ils ont dit bah nous aussi ils ont enfreint nos patentes. En gros ils se sont fait envoyer péter quoi. Donc c'était vraiment une victoire quasi totale d'Apple sur le sujet. Donc c'est quand même relativement grave parce qu'il n'y a pas de il y a rien pour atténuer la décision en faveur de Samsung. Et en ce qui concerne les dommages, bah $1 milliard c'est monstruissime. Même si in fine qu'on soit bien clair, il va y avoir un processus d'appel, de recours, parce que je peux te dire que si tu dois payer $1 milliard, tu vas pas hésiter à dépenser des dizaines de millions de dollars en legal fees, en avocat.
J'ai vu des commentaires sur Twitter de certaines personnes qui disaient « Ah oui, mais $1 milliard, ça représente une fraction de leur chiffre d'affaires du trimestre, donc évidemment, c'est pas un énorme problème. » Un énorme problème pour tout le monde, même si t'en as 100 milliards à la banque, n'importe quelle société au monde va se battre bec et ongle pour ne pas payer le milliard et faire utiliser tous les recours qu'ils peuvent. Ceux qui s'imaginent que waouh, $1 milliard c'est pas grand chose pour Samsung se fourrent vraiment le doigt dans l'œil.
C'est juste à l'Instagram, qu'est-ce que tu racontes? non, mais le point que je voulais faire, c'est que oui, d'un point de vue revenu. Samsung, $1 milliard, c'est pas grand chose. Mais faut pas oublier que c'est une boîte qui a une marge opérationnelle d'à peu près 8%. Et la dernière fois que j'étais voir les Gus en Corée, où en fait je me suis assis avec toute l'équipe de management de Samsung pour discuter leur stratégie d'acquisition, etc. Le patron à l'époque me disait, mais le problème c'est qu'on a que 20 milliards en banque. Donc c'est pas une boîte qui est comme Apple avec des centaines de milliards de dollars en cash. En gros,
enfin,
$1 milliard, c'est
des centaines.
Ok, un peu plus de 100 milliards. Tu m'excuses, ouais. Un peu plus de 100 milliards. Samsung, $1 milliard, c'est en gros 5% de leur cash. C'est pas rien. Qu'on s'en rende compte quand même.
Oui, non, mais et puis à vrai dire, même si Apple devait payer $1 milliard sur leurs 100 milliards, ils se battraient pour ne pas les payer. Je veux dire, c'est de l'argent de poche. C'est de l'argent de poche pour personne. $1 milliard.
Oui, et puis surtout, c'est un problème de précédent. C'est ça
bien
aussi.
Bien sûr. Bien sûr. Alors, justement, les précédents et les conséquences sur l'industrie et sur les utilisateurs, on va en parler. Avant d'y venir, juste pour reparler de ces points sur lesquels Samsung a été condamné, les principaux, ça va être trois choses que j'ai retenues. D'une part, les brevets pour le pinch to zoom, c'est-à-dire pincer pour zoomer, qui est un brevet qui a été déposé par Apple au moment de la sortie de l'iPhone. Il a été attribué à Apple il y a un moment, et donc Samsung a été condamné parce que les jurés ont trouvé qu'ils avaient utilisé cette fonction qu'Apple avait brevetée. L'autre, c'est je vais dire une bêtise. Il y a un autre brevet logiciel spécifique que je retenais et que j'ai oublié. Bon, bref. Okay,
on n'a pas fait un mind meld depuis un bout de temps là, donc ouais, je peux pas t'aider.
C'est possible. Donc, bref, il y avait celui-là et un autre qui était du même type, hein, du même acabit. Et l'autre aspect qui a été clairement condamné, c'était cette histoire de trade dress. Donc, l'aspect des premiers iPhones et notamment du 3G et du 3GS, c'est-à-dire cet écran avec le cerclage en métal brillant, en métal chromé. Quand on prend le Galaxy S ou le Galaxy Nexus, je ne sais plus, il y a effectivement ce même chromage autour de l'écran qui a été estimé par les jurés comme étant une copie. Par contre, pour tout ce qui est tablette, les jurés ont estimé qu'effectivement c'était un rectangle noir et que là il n'y avait pas une intention claire de Samsung de copier les tablettes d'Apple, parce que dans l'aspect en tout cas c'était pas le cas. Donc effectivement ils sont pas allés à fond sur ce que demandait Apple, même si, comme on disait, c'était très clairement pour Apple et c'est indéniable. Ensuite, il y a la question.
Il y a pas grand chose qu'ils ont pas eu quand même, hein.
Non, c'est sûr. Ils ont très clairement été. Le fait que les tablettes ne sont pas directement concernées par ces arguments, c'est quand même un mini ouf de soulagement pour Samsung dans leur malheur. Disons que ça aurait pu être pire.
Ça aurait pu être encore pire. Tu as raison. Ça aurait pu être une véritable catastrophe.
Ouais. C'est juste une énorme catastrophe là. Alors, il y a d'autres choses qu'il faut préciser. Comme tu le disais, les Samsung va évidemment faire appel, hein, c'est évident. Samsung ne reçoit rien d'Apple. Toutes les condamnations ont été de Samsung, mais aucune d'Apple. Un des éléments qui a joué pour cette décision, parce qu'on a entendu maintenant les jurés qui ont pu parler au public, c'était le fait que l'essentiel des brevets que Samsung estimait avoir été agressé par Apple étaient dans des puces pour lesquelles ils avaient vendu la licence à Intel, disant à Intel qu'ils pouvaient revendre ces puces-là. Et Apple avait acheté ses puces d'Intel. Donc là, les jurés ont été convaincus. La chose qui les a aussi convaincus que Apple avait raison, c'était la série de documents dont on avait déjà parlé, où Samsung avait fait une analyse de l'iPhone au moment de sa sortie, au moment des versions 3G et 3GS, et avait détaillé point par point les éléments qui fonctionnaient sur l'iPhone et les éléments qui ne fonctionnaient pas sur ces téléphones à eux. Donc ça, c'est un autre élément qui visiblement les a vraiment convaincus. Une chose à préciser aussi, c'est que les critiques qu'on peut faire de ce procès, il y en a évidemment qui sont très très valides, et on peut même se demander si ce procès aurait pu avoir lieu. Mais pour aller vraiment au fond des choses, le vrai problème, si jamais on accepte que ce procès n'aurait pas dû avoir lieu parce que il y a des appareils qui ressemblent aux appareils qu'ils sont, et ils se ressemblent tous plus ou moins, le problème ne vient pas de Samsung ou d'Apple vraiment. Le problème vient plutôt du système des brevets qu'on critique énormément depuis quelques années. Et la question se pose de savoir si ces brevets auraient dû même être attribués à la base par le USPTO, le US Patent and Trade Office, je crois, le bureau des brevets américain. Donc le cœur du problème, je pense, même pour ceux qui sont très très furieux contre ce procès et les résultats de ce procès, se situe plus au niveau des brevets, je pense, qu'au niveau des acteurs du procès eux-mêmes, même s'il est légitime aussi de penser que Apple n'aurait pas dû se servir de ces brevets-là. Bon, ça c'est bon en théorie, mais dans la pratique, s'ils ont le brevet, ça veut dire qu'ils ont un truc à protéger. Je reviens sur l'autre brevet qui a marqué les gens. C'était l'histoire du rubber band, du bounce back. C'est-à-dire que quand on va sur une page, n'importe quelle page, si on arrive au bout de la page, une page internet par exemple, on descend un petit peu plus bas et on a une zone vide que l'on peut voir avant que la page web elle-même redescende sur la zone vide ou remonte ou sur les côtés. C'est une petite astuce d'interface utilisateur que les utilisateurs de produits Apple connaissent bien et qui a été jugé comme étant utilisé à tort par Samsung. Il faut aussi préciser que les appareils qui sont concernés chez Samsung sont des appareils qui ont déjà quelques années aujourd'hui et que Samsung a dépassé ce stade de la copie, si on admet qu'il y ait eu une copie, a dépassé ce stade depuis un ou deux modèles, on va dire au moins depuis le Galaxy S3 qui est sorti il y a quelques mois, et que a priori Samsung et les autres constructeurs se sont écartés de cette inspiration, on va dire, d'Apple, et que donc ces appareils plus récents ne seraient pas vraiment concernés par cette décision de justice, ou en tout cas, il serait très facile de les sortir du cadre de la décision en les retravaillant un petit peu, et beaucoup de constructeurs ont déjà commencé à aller dans cette direction. J'ai beaucoup parlé, t'as un commentaire à faire sur ce que j'ai dit jusqu'à maintenant ou j'enchaîne, Jeff ?
Non, je pense que pour revenir sur est-ce qu'Apple a eu tort ou raison, ou en gros, on est dans un système légal avec des software patents, des choses qui, comme tu le disais, n'auraient jamais dû être données par le USPTO comme patentable, ou auraient dû être définies par le USPTO comme patentable, mais bon, ça fait partie de l'arsenal de guerre des grandes boîtes de protéger leur IP, leur intellectual property. Et donc, à partir du moment où ils ont établi que Samsung vraiment poussait le bouchon sur leur pratique, ils sont partis après. Et clairement, quand tu vois en fait, en quelque sorte, la gravité du jugement, parce qu'en gros, quasiment tout a été donné à Apple, comme on le disait. Mm-hmm. On peut se poser deux questions. C'est un, est-ce que c'était vraiment pour remettre à l'ordre les copains de Samsung, ou est-ce que c'est en gros, bon, on se fait Samsung et puis après on va se faire Google? Parce que ouais. c'est ça la vraie question.
Bah, c'est effectivement la grande question. D'une part, est-ce que Apple va réussir à faire bloquer les appareils Samsung en vente aux États-Unis? Il faut évidemment préciser que ce procès ne concerne que les États-Unis. Hein. Il y en a d'autres dans d'autres pays. Là, on parle que des États-Unis. Et surtout, est-ce qu'Apple va aller s'attaquer à d'autres constructeurs ou même à Google ensuite? C'est une question tout à fait légitime. Et il y a aussi la question de savoir à qui ça va bénéficier finalement. Au final, est-ce que les utilisateurs finaux vont bénéficier de cette histoire? Parce que évidemment, le système de brevets et le système légal est censé avoir comme but ultime, au final, au bout de la chaîne, de bénéficier aux utilisateurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est les utilisateurs qui vont en profiter, ou finalement on se fait avoir nous dans cette histoire?
Bah, dans l'histoire, tu pars du principe que toute compétition entre des grosses boîtes comme Samsung, Apple, etc., va pousser deux choses. Un, plus d'innovation et des coûts qui restent, des prix pour cette innovation qui restent raisonnables, puisque par définition, il y a toujours plusieurs sources fournisseurs pour cette innovation. Et donc, si jamais les manœuvres d'Apple leur permettent d'avoir un lockdown sur le système et de dire, bah tiens, on est les seuls à pouvoir faire des tablettes, après ça devient un marché avec un seul côté pour définir les politiques de prix, etc. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui ferait souffrir les utilisateurs.
C'est sûr. Il y a effectivement cette hypothèse qui a été avancée. Je pense que sur les tablettes, on est moins dans cette configuration, peut-être sur les téléphones. Et d'autres ont dit aussi, je ne sais pas avec qui vous serez d'accord, chers auditeurs, mais il y a deux manières de voir la chose. Soit celle-là, qui est Apple va avoir une sorte de mainmise sur ce type de technologie, et donc les appareils autres ne pourront pas être en vraie compétition avec eux. Et d'autres personnes disent, eh ben voilà, Apple est en train d'obliger ses concurrents à innover, et donc Android, parce que c'est clairement d'Android qu'il s'agit, Android va être obligé d'innover et de faire d'autres choses pour mieux se vendre et pour être compétitif, et c'est par ce biais qu'ils vont arriver à faire des appareils plus intéressants pour les utilisateurs. Je dis pas plus performants, parce que c'est même pas une question de performance. Moi, je vous avoue que je me situe un petit peu en dehors de même cette question, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens se focalisent sur cette question de Apple et Samsung, spécifiquement la bataille Apple et Samsung dans un cadre énorme. Je crois que vraiment, ce procès porte sur des choses très très précises. Il y a quelques brevets qui sont pénibles si on peut pas les utiliser, du genre, effectivement, le pinch to zoom, oui, c'est super chiant, il faut double taper ou ce genre de choses. Et l'aspect extérieur d'un appareil avec son cerclage en métal, je pense qu'il y a d'autres moyens de rendre un appareil intéressant. Et que ces choses-là spécifiques ne sont pas hyper gênantes pour les constructeurs. Ils peuvent trouver d'autres moyens. L'un des arguments d'Apple était, nous avons mis 5 ans à développer toutes ces technologies et toutes ces fonctionnalités et toute cette image. Et Samsung l'a copié en 3 mois. Et l'un des arguments forts d'Apple, c'était, ça induit une dilution de notre marque et ça induit de la confusion, entre guillemets, chez les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer des vendeurs qui disent au magasin de téléphone portable, ah oui, bon, Apple, ok, il est comme ci, mais regardez, non, Samsung, bon, c'est la même chose, vous voyez, il ressemble un petit peu, bon, et le vendeur va peut-être pouvoir vendre le truc en faisant valoir la similarité. Bon, c'est discutable, hein, bien sûr. Je dis pas que ça va être forcément être le cas, mais moi, je crois que sur ces points précis qui ont été acquis à Apple pendant le procès, évidemment, ça va obliger les développeurs et les constructeurs à faire d'autres choses pour éviter ces spécificités. Mais il est tout à fait possible de faire des machines et des systèmes intéressants, même en évitant ces spécificités. Donc, à mon sens, je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'Apple ait gagné et ait gagné de manière aussi claire, mais à mon sens, ce n'est pas la fin du monde du tout pour les constructeurs. Et je me demande même s'ils ne vont pas maintenant aller s'asseoir à la table de Google et dire « Bon, on va payer des royalties. Maintenant, vous voyez qu'on a une position forte. Si vous nous payez des royalties de temps en temps, on oublie toute cette histoire et on laisse les choses passer comme il faut, comme l'a fait Microsoft, par exemple. Il y a beaucoup de constructeurs Android qui payent des royalties à Microsoft. Donc, bon.
Bah, tout dépend en fait de l'objectif. Si c'est juste avoir du cross-licensing, etc., qui est l'approche typique des patentes, enfin des j'attaque en public, enfin j'attaque en court pour tes patentes machin, et puis toi tu vas me contre-attaquer, et puis donc on va faire un settlement, et derrière on va faire un cross licensing de nos portefeuilles. C'est l'approche habituelle, mais là clairement c'est pas un problème de je veux les patentes Samsung, c'est je veux empêcher Samsung de vendre certains devices. Et la question c'est jusqu'où. Est-ce qu'Apple a dit, bon, effectivement, quand on voit, d'après les évidences qui ont été collectées, que Samsung a fait changer leur design, leur technologie, leur fonctionnalité immédiatement après la sortie de iPhone, on peut dire, oh bah c'est un hasard. Ouais. Et donc c'est ça. C'est là où on peut se poser la question de, est-ce qu'ils voulaient vraiment mettre Samsung dans le camp des worst offenders, ou est-ce que c'était on se fait Samsung, si ça marche on va se faire Google.
Ouais, c'est possible, disons que l'avenir nous le dira. À ce propos, justement, il y a une analyse très intéressante d'un blog dont je ne me souviens plus du nom, je crois que c'était GigaHome, où il disait en fait, malgré cette décision de justice qui est assez dévastatrice, dévastatrice est peut-être un mot un peu fort, mais Samsung a sans doute fait le bon choix, même si il s'avère qu'ils ont copié ouvertement Apple. Parce que regardez les autres choix qui se posaient à eux, qui se posaient à tous les constructeurs quand l'iPhone est sorti. Soit on ne copiait pas du tout et on continuait dans notre direction ou à faire des choses un petit peu bizarres. C'est ce qu'a fait Nokia, c'est ce qu'a fait RIM et ils sont pas dans une bonne position. C'est ce qu'a fait LG ou HTC notamment. Ils sont pas dans une super bonne position. Soit on faisait comme Microsoft et on faisait de la vraie différenciation, de la vraie innovation au niveau de l'interface. On essayait de faire quelque chose de différent pour arriver à cette facilité d'utilisation des smartphones qui était pointée du doigt par Apple. Alors c'est ce qu'ils ont fait chez Microsoft, c'est ce qu'ils ont fait chez Palm d'ailleurs avec WebOS. Palm s'est planté, Microsoft a sorti son OS. Ça n'a pas été le succès immédiat qu'ils auraient espéré. Peut-être que ça changera, mais ils ont les épaules pour tenir sur le long terme aussi. Donc c'était pas forcément un choix qui était disponible pour tout le monde. C'était de prendre quelques années de retard pour arriver sur la place. Soit on faisait comme Samsung, la solution rapide c'était de faire des petites copies clairement de l'appareil et de se laisser le temps de se s'imposer et de se laisser le temps aussi de faire les choses différemment à terme, comme on le voit aujourd'hui avec les différents modèles Galaxy, même si ça pouvait avoir des conséquences plus graves avec Apple. En l'occurrence, même si ils doivent payer un milliard au final après les appels qui vont durer des mois et des années, même s'ils devaient le payer ce milliard, qui peut d'ailleurs être triplé ou réduit par la juge si elle estime que c'est nécessaire, même s'ils doivent le payer, peut-être que ça a quand même été stratégiquement le bon choix pour Samsung. Dernière chose pour préciser.
Ouais, en gros, ce que tu dis, c'est de toute façon, comme on a perdu, autant qu'on pousse le bouchon le plus loin possible, et en gros, on prend le risque de cette situation. Et en gros, la question, c'est est-ce qu'ils ont perdu? Ils vont perdre un milliard à cause de du jugement. Est-ce qu'ils auraient perdu plus d'un milliard en termes de revenus s'ils étaient partis sur leur propre innovation?
C'est ça.
C'est une bonne question. Ouais. Cela dit, enfin ouais, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en gros c'est ce que tu dis quoi.
Oui, oui, en gros, oui, bon, c'est très schématique, hein, bien sûr, mais c'était une... Comme Samsung est aujourd'hui l'acteur majeur à côté de d'Apple chez les constructeurs dans le monde de la mobilité, clairement, ils ont fait quelque chose qui était un choix juste. Donc, bon, peut-être que c'est, ça schématise un peu trop, je suis d'accord.
Quote juste.
Pardon ?
Quote and quote, juste.
Oui, ouais, c'est ça. Je fais les guillemets, ouais. Dernière chose sur ce point, sur ce sujet, et puis on va passer à autre chose. Il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, certains spécialistes juridiques qui disent que il y a eu trop d'erreurs dans le jugement et trop d'amateurisme entre guillemets, et que le jugement va être overturned, donc va être annulé. D'autres juristes, et là je ne sais pas exactement, mais d'autres juristes disent, c'est un petit peu des juristes qui sont frustrés que les jurés, pardon, ne soient pas eux-mêmes des juristes et ne s'y connaissent pas aussi bien qu'eux en loi, parce que en matière légale, parce que le but du système légal, c'est que le jugement soit rendu par des gens entre guillemets normaux. Donc bon, on ne sait pas là où ça va aller non plus. Peut-être qu'effectivement il y a des erreurs flagrantes qui feront que le jugement ne peut pas tenir. Et évidemment, Samsung fera appel en fonction de ces erreurs-là et de bien d'autres encore. Moi, les erreurs que j'ai vues, ça paraissait pas des choses invraisemblables. Disons que ça reste dans la latitude que peut avoir le jury, les jurés de juger les choses de telle ou telle manière. Mais bon, moi je suis pas un spécialiste, donc peut-être que je me trompe sur ce point. Donc voilà pour le procès Apple versus Samsung. On aura certainement d'autres choses à dire avec les appels, mais c'était vraiment vraiment le gros sujet de ces deux dernières semaines, et à vrai dire de ce week-end. Un autre sujet que je voudrais évoquer, c'est un formidable article de Ars Technica que je vous engage et vous enjoins tous à aller lire. Est-ce que tu l'as lu, Jeff, cet article qui s'appelle « Why passwords have never been weaker and crackers have never been stronger ?» Pourquoi les mots de passe n'ont jamais été aussi faibles et les hackers et les crackers n'ont jamais été aussi forts. Est-ce que tu l'as lu ?
Non, je l'ai pas lu.
Eh ben écoute, je vais te recommander d'y courir après l'émission et je vais en faire un petit résumé.
Je suis en train de l'ouvrir.
D'accord, très bien. C'est un article qui est un petit peu long et un petit peu technique, mais qui est absolument fantastique et terrifiant à la fois, que je vais vous résumer ici, surtout parce qu'on avait parlé de sécurité il y a, je crois, 2 semaines à peine, quand on parlait du hack de Matt Honan dans l'épisode précédent, que je vous engage à aller écouter aussi, je vous enjoins à aller écouter. Au début, quand je suis arrivé sur cet article, je me suis dit « Oula !» Dan Goodin, qui est l'auteur de l'article, est en train de nous faire du catastrophisme. Ça va encore être quelque chose de ridicule et de d'outrancier. Et je suis sûr que je vais m'en trouver ça complètement idiot. Et voilà. Mais bon, je l'ai lu quand même parce que je suis consciencieux et j'ai été complètement édifié et atterré à la fin. Et donc, je vais vous résumer, comme je le disais, les 2 points essentiels de l'article qui, en gros, vous dit que il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à vos mots de passe. Alors, pourquoi est-ce que les mots de passe n'ont jamais été si faibles ? Il y a eu, depuis quelques années, des fuites de listes de mots de passe en clair énormes. Notamment l'une de ces grosses fuites, c'était la fuite des mots de passe du service RockYou, dont je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais ils ont perdu quelques millions de mots de passe il y a quelques années. Et il y en a eu d'autres.
C'était un social network qui est devenu un photo sharing, qui est devenu une boîte de développement de jeux Facebook. En gros, c'était des mecs qui étaient super bons à la viralité et pas très bons au back-end.
D'accord, ok, oui, bah effectivement, parce que ils stockaient tous leurs mots de passe en clair. Évidemment, généralement, chez les services un petit peu sérieux, les mots de passe sont cryptés. Il y a des hashes, du salt, etc. Je vous passe les détails, mais ils sont cryptés. Donc même si un hacker réussira à s'introduire dans leur base de données et à la récupérer, c'est pas du tout facile de récupérer les mots de passe. Mais RockYou stockait ces mots de passe en clair, en texte normaux. Et ils en avaient 32 millions qu'ils ont perdus en 2009, fin 2009. Depuis, il y a eu d'autres services qui ont également perdu des mots de passe en clair pour arriver à environ une centaine de millions de mots de passe en clair qui sont disponibles pour tous les hackers. À quoi ça leur sert, ces mots de passe ? Ça leur sert parce que ça leur donne des indices très très importants pour savoir quel type de mot de passe les gens choisissent en général. On a appris par exemple des choses bizarres comme le fait que beaucoup de gens utilisaient en anglais dans le texte monkey, singe, comme mot de passe ou comme élément de leur mot de passe. On a appris aussi qu'il y avait une énorme quantité de mots de passe qui étaient composés d'un nom propre en 8 lettres et d'un chiffre d'une année du 20e siècle en gros à sa suite. Donc par exemple Patrick 1902 ou ma date de naissance qui est 1973. Donc il y a des indices comme ça qui permettent aux hackers d'orienter leur recherche. C'est-à-dire que quand ils réussissent à récupérer ces fameux mots de passe cryptés en s'introduisant dans des systèmes, ils vont pouvoir faire des tests pour voir si ce cryptage de mot de passe correspond à un mot de passe spécifique. Et au lieu de devoir tester la théorie des mots de passe, c'est-à-dire une combinaison complètement aléatoire de chiffres, lettres et caractères spéciaux, ils vont pouvoir ne tester que des combinaisons beaucoup plus limitées. Ils vont avoir des mots du dictionnaire ou alors des listes de noms propres avec toutes les années du XXe siècle, par exemple. Ou alors le mot « monkey » qui est souvent utilisé. Ou alors, il y a plein de petites astuces en plus, comme par exemple le fait de remplacer un E par un 3, pour être en langage très lit pour ceux qui connaissent, ou le fait de remplacer un S par un dollar, etc., etc. Il y a énormément d'astuces comme ça que énormément de gens utilisent. Et bien sûr, sans s'en rendre compte, sans consulter les autres personnes, hein, simplement en se... parce que les humains, l'esprit humain n'est pas très doué pour générer des choses vraiment aléatoires. Donc on passe d'une combinaison immense et énorme de possibilités immenses avec ces fameux 96 caractères différents qui sont chiffres, lettres et caractères spéciaux dans un mot de passe un peu long à des ensembles de mots de passe beaucoup plus réduits. Donc ça c'est le premier élément. On passe de plusieurs ordres de magnitude plus petits. Au lieu d'avoir des milliards de milliards de milliards, on a des centaines de millions de possibilités, par exemple. L'autre élément, c'est que les hackers ont énormément de puissance à leur disposition. Ils sont très très forts. Et la raison pour laquelle c'est vrai, c'est qu'on a la puissance des ordinateurs qui a augmenté de manière incroyablement significative. Et ils donnent un chiffre qui est édifiant, c'est que une carte graphique AMD Radeon HD 7970 peut faire des tests sur ces mots de passe cryptés à une fréquence inimaginable. Jeff, si je te dis comme ça, combien de millions de tests est-ce qu'il peut faire à la seconde ? Simplement une carte graphique classique hein, du commerce avec des logiciels qui sont téléchargeables très facilement sur Internet. Au hasard, tu me dis combien de millions ?
Je suis en train de lire l'article.
Ah, d'accord. Donc, tu sais. Bon. Alors, ouais. je vais vous le dire, chers auditeurs. On parle même pas en millions, on parle en milliards. Cette carte graphique avec les logiciels qui vont bien peut faire 8,2 milliards de tests à la seconde. C'est invraisemblable. Donc, si vous mettez ces deux éléments ensemble, les indices qu'ils ont eus pour tester un ensemble de mots de passe réduits, et la puissance des cartes graphiques actuelles, ça veut dire que les mots de passe sont plus faciles à craquer que jamais. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut qu'ils obtiennent ces mots de passe cryptés, qui sont pas évidents, parce que s'ils essayent de se connecter à un service web, évidemment, au bout de 4-5 connexions, ils peuvent pas faire une attaque en force brute sur le service web. Il faut que cette attaque en force brute, qui est de tester plein de types de mots de passe différents, soit faite sur des fichiers cryptés qui ont été volés au service en question. Mais c'est devenu quelque chose qui est loin d'être impossible. Donc, c'est quelque chose que, surtout, qui est édifiant, je disais, parce que je n'imaginais pas que c'était aussi facile, entre guillemets, aujourd'hui, pour les hackers, de trouver ces mots de passe une fois qu'ils avaient été cryptés. Et il y a différentes méthodes de cryptage. On parle, comme je le disais, de hash, de salt, etc. Je vous fais un schéma grossier, hein, mais on pensait pas que c'était aussi facile à craquer, facile entre guillemets. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut plus que jamais faire attention à sa sécurité. D'une manière générale, les mots de passe qui sont plus longs sont beaucoup plus difficiles à craquer. Si vous montez à, je sais pas, 12, même au-dessus de 9 ou 10 caractères pour votre mot de passe, ça augmente la difficulté de façon exponentielle, parce qu'à chaque fois, c'est multiplié par le nombre de caractères possibles, c'est-à-dire 96. Donc, ça augmente vraiment, vraiment très, très vite. Si vous montez à 10 ou 12 ou 15 caractères, vous devriez être tranquille. L'autre chose, vraiment à faire, si vous êtes un petit peu habitué à l'instrument informatique, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, comme LastPass au hasard, il y en a d'autres, hein, mais LastPass, de vous faire des mots de passe au hasard, générés par LastPass, d'une longueur correcte et vraiment au hasard, que même vous ne saurez pas, et de retenir un mot de passe qui sera le mot de passe d'accès à ce gestionnaire de mots de passe, que vous pouvez aussi protéger par un authenticateur Google, par exemple. Et une fois que vous avez ce très très long mot de passe pour accéder à ce gestionnaire de mots de passe, très long et très unique et que vous connaissez, eh ben vous devriez être tranquille. L'autre chose, c'est vraiment d'utiliser des mots de passe différents pour différents services, on en avait déjà parlé. Si vous voulez plus d'informations sur ces sujets, n'hésitez pas à retourner à l'épisode 93 où on détaillait les trois éléments importants pour être un petit peu tranquille sur la toile, mais cet article était vraiment intéressant et je voulais le partager avec vous parce que c'était une sorte de suite à l'épisode précédent qui, à mon sens, a apporté une valeur importante. Donc voilà.
Et le problème, c'est que c'est vraiment une boucle infernale, parce que à partir du moment où un mot de passe a été deviné et que vous utilisez le même, bien souvent ils vont pouvoir accéder à vos comptes Twitter, email, etc. Ils vont commencer à envoyer du spam aux gens qui croient que c'est vous qui l'envoyez, et donc ça va derrière lancer des vagues de Trojan Horse, enfin des programmes qui vont prendre la main sur les ordinateurs, et donc c'est vraiment super important. Et je me rappelle avoir reçu ce type d'email du consul général du Canada. Je dis Auguste, peut-être que j'ai ton mot de passe, parce que bon, il me dit, mais j'ai utilisé mon compte Yahoo depuis des années, et si je lui avais pas dit, je pense qu'il aurait continué à envoyer des emails avec du malware, et typiquement, le consul général du Canada, on ouvre ses emails, quoi.
Ah oui, effectivement, c'est sûr, ouais. Donc, vous avez été prévenu. Utiliser des mots de passe un petit peu plus forts. Entre parenthèses, Dropbox, dont je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont fans, a implémenté en version bêta l'utilisation de l'authenticateur Google, eux aussi. Donc, ça commence à bouger un petit peu. Un authentificateur, a priori, ça vous couvre au niveau de la sécurité assez largement. Dernier sujet important dans les trois infos à retenir de cette émission, de cet épisode, c'est le changement massif des règles pour les développeurs partenaires de Twitter. Pour résumer, Twitter a changé l'accès à ses API, donc l'accès à ses données, pour les développeurs tiers qui font des applications Twitter diverses et variées. L'élément principal qu'ils ont changé, c'est que maintenant, à partir d'un certain nombre d'appels d'API, à partir de environ 100 000, il y a des considérations spéciales, mais tout de même, c'est à peu près 100 000 en gros. Il va falloir travailler avec Twitter, donc leur demander l'autorisation en gros, d'accéder à leur service. Ça ne concerne évidemment que les développeurs, mais ça peut avoir des conséquences pour les utilisateurs que nous sommes aussi. Par exemple, imaginons que les services, les logiciels, les apps déjà établis, a priori, vont travailler avec Twitter, ça leur changera pas énormément de choses, hein, pour eux. On pense à des choses comme Flipboard, par exemple, qui utilisent Twitter énormément. Eux, je pense qu'ils vont pas trop avoir de problèmes pour négocier avec Twitter. mais d'autres, par exemple des petites sociétés qui vont développer des apps intéressantes et innovantes sur Twitter, dès qu'ils vont atteindre cette limite de 100 000, a priori, c'est pas, ça pourrait être relativement vite atteint s'ils commencent à gagner en popularité, ils vont se retrouver un petit peu coincés et ils vont devoir parler avec Twitter qui risque de leur demander de l'argent ou de demander on sait pas trop. Mais ça va changer un petit peu l'écosystème qu'il y a autour de Twitter. Alors, dans les premières heures et les premiers jours, on a entendu des développeurs plutôt grognons sur ce sujet. Et dans les jours qui ont suivi, on a entendu des gens dire, pas le contraire, mais dire « ne paniquez pas pour rien ». D'une part, c'est normal que Twitter s'intéresse à la protection de son propre business model et de son écosystème, parce que le but de Twitter, c'est pas de se vendre un jour à quelqu'un, mais de devenir vraiment une société qui compte sur la toile autant que Google ou d'autres. Et pour ce faire, c'est un petit peu obligatoire pour eux de commencer à contrôler leurs accès, comme le fait Facebook ou Google, hein, par exemple. Et puis d'autres qui ont dit, si vraiment on a un service qui est intéressant, eh ben Twitter aura tout intérêt à travailler avec nous pour le faire. Donc c'est pas la fin du monde. Je pense que effectivement, moi, je me dis que ça va sans doute rendre les choses un petit peu plus difficiles pour les tout petits, mais c'est en même temps un stade de la vie de Twitter où c'est un petit peu inévitable. On n'est plus au stade où c'est quatre gamins dans leur garage qui font un truc et ouais, c'est super la life et on se marre comme des fous. Bon, j'exagère, mais je veux dire, Twitter est en train de devenir un vrai business et on gère pas les choses de la même manière que quand on est une start-up, quoi. C'est une évolution vers la vie de business. Est-ce que je me fourre complètement le doigt dans l'œil, Jeff, ou...
Oui et non, le seul problème avec l'approche de Twitter, qui effectivement doit trouver une façon d'équilibrer ses revenus et ses coûts, donc les revenus, il faut qu'ils augmentent, et on sait très bien que de ce côté-là, ils ont quand même eu des soucis pour avoir un revenu qui soit, en gros, en correspondance avec l'importance de Twitter en tant que phénomène média. Clairement, parce que ils sont très loin des 4 milliards des copains de Facebook. Et de l'autre côté, ils doivent limiter leurs dépenses. Et limiter les dépenses, c'est faire en sorte que tout l'écosystème bouffe moins de ressources. Ouais. Le souci, c'est que une des raisons du succès de Twitter, c'est parce que justement, ils ont réussi à tirer parti de toute cet engouement que le monde du développement, le monde des applis, a eu pour Twitter en tant que média. Et donc, ce qui est ressenti d'une certaine façon, c'est que on les a aidés à arriver là où ils sont, et puis maintenant, ils veulent nous pénaliser si jamais on a trop de succès. Mmh. Et effectivement, comme tu le disais, je pense que les tierces parties qui développent des choses stratégiques on a la possibilité de discuter avec eux, mais ils ont effectivement un problème de comment on rationalise tout cet écosystème, et à ce jour, ils n'ont pas vraiment été super bons sur leur communication avec l'écosystème. On les a vus déjà une ou deux fois, en gros, dire « tiens, voilà, vous avez dit que les applis, c'était à vous, mais en fait, c'est à nous. En gros, maintenant, c'est impossible
de faire. » C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on n'a pas déjà eu cette histoire et est-ce qu'ils n'ont pas déjà un petit peu crié au loup, les développeurs, en disant « Ah, voilà, c'est la fin du monde, Twitter fait ci et ça, donc ça veut dire qu'on va plus pouvoir rien faire. » On n'a pas déjà entendu cette histoire? Ça fait pas deux ans que c'est la même chose? Et que finalement, ils se portent très bien?
Ils se portent très bien. Qui se porte très bien? Twitter ou ils se portent très bien les développeurs? Parce qu'à ce jour, tu te pointes avec un plan pour dire je vais développer une application sur Twitter, je peux te dire bonne chance pour le faire funder, hein. Ouais. Parce que on sait très bien que c'est quasiment impossible de construire un business viable au-dessus de Twitter. T'as quelques exemples comme Hootsuite ou CoTweet. Alors CoTweet, ils ont été smart parce qu'ils ont été ils se sont rendus très rapidement. Hootsuite a un business dans le monde du corporate, donc ils vendent des clients Twitter à des brands et des grandes boîtes. Bon, est-ce que derrière ça, tu peux justifier une grosse boîte? Moi, je suis pas certain, mais enfin, on verra. Oui. Mais à part ça, t'as pas des masses de boîtes qui ont réussi à construire des choses en tant que client Twitter. Après, voir comment tu peux construire un Gunip, qui est une de mes boîtes, ou un Clout, avec les données Twitter, là, tu as une possibilité parce que c'est effectivement un, des données qui, dont la, le volume augmente chaque jour et qui est très intéressant pour pas mal de pans de l'économie, mais faut vraiment faire très attention à ce que tu vas faire. Il y a toujours cette question qui est, est-ce que par hasard Twitter va pas changer d'avis et de venir me niquer? Et le jour où Twitter décide de faire son propre cloud, bah, qu'est-ce que fait cloud, quoi, tu vois?
Oui, bien sûr. Et effectivement, là, avec les, la restriction d'accès, ça risque d'être un petit peu compliqué, même pour ceux qui existent déjà. Donc, bon, je laisse cette analyse pertinente conclure notre partie des trois infos à retenir. Et je vais faire une transition habile vers le message de notre sponsor, le Fanshop No Watch, que vous connaissez bien désormais. Et vous savez qu'il y a des t-shirts merveilleux que vous pouvez acquérir sur ce Fanshop. Vous allez sur nowatch.net/fanshop, où il y a un lien aussi vers les boutiques directement sur nowatch.net. Et vous pouvez y trouver des t-shirts pour femmes et pour hommes, le modèle Hulkette et le modèle Kill Your TV Now. Attention, il y a déjà des modèles qui commencent à être en rupture dans certaines tailles, donc faites vite si vous voulez les acquérir. Et vous pouvez aussi y trouver des petits goodies en plus pour toutes les bourses, comme vous le savez. Si vous voulez nous filer un coup de main et que vous savez pas trop comment faire, eh ben allez acheter un petit goodies, un badge à 5€ ou une planche vinyle de déco pour votre appareil mobile ou votre portable à 17€. Tout rond, ça peut nous filer un petit coup de main et c'est toujours apprécié. Donc on vous remercie beaucoup et on remercie la boutique No Watch elle-même. On enchaîne avec nos news et rumeurs, qui est la partie donc où on parle des informations intéressantes mais qui ne nécessitent pas forcément un long débat. La première que j'ai choisi de retenir, c'est la... Comment dire, le bruit que commence à faire la chute vertigineuse, je mets des guillemets là aussi, de l'action Facebook, puisqu'elle a perdu à peu près la moitié de, la, de sa valeur depuis son entrée en bourse. Il y a, ils sont aujourd'hui à environ $20. Et il y avait un article
19-20 aujourd'hui, je crois.
Ouais, donc ça continue.
Donc ça continue.
Ouais. Il y avait un article très intéressant de Business Insider qui était une sorte de, qui était rédigé en forme de lettre ouverte aux employés de Facebook à propos de leur, de leurs actions. Et il disait plusieurs choses. Il disait, d'une part, l'action, la chute de l'action n'a rien à voir avec la qualité de Facebook en tant que société. Ça n'a absolument rien à voir. Donc ne vous inquiétez pas à ce ce sujet-là. Ça a à voir avec des investisseurs qui sont en train de revoir leurs estimations sur le futur et les gains futurs de Facebook. Donc, c'est pas vous. C'est juste que cette estimation est plus basse qu'elle ne l'était il y a 3 mois. Ensuite, c'est les raisons pour lesquelles le marché est en train de réestimer le futur de Facebook, c'est la growth, donc le grandissage.
La croissance.
La croissance, merci, c'est le mot que je cherchais.
J'arrive pas à croire que c'est moi qui dis le mot français.
Donc la croissance décélère, l'impact de la mobilité est énorme et il y a un déclin des profits immédiats parce que Facebook investit sur le futur. Donc les investisseurs estiment que Facebook n'est peut-être pas le prochain Google comme ils l'avaient cru à l'origine. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est que l'action Facebook est toujours très très chère et très bien évaluée par rapport à la croissance de la société et la croissance de ses gains. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un point qui est très important à comprendre parce que il y a beaucoup de gens qui se disent ah ça y est Facebook a perdu la moitié de sa valeur, l'action est au fond des toilettes. C'est pas du tout le cas. L'action est toujours très très bien évaluée, enfin par rapport à l'état de la société elle-même, et même si elle chute encore, ce qui est probable, elle sera toujours assez bien évaluée. Donc il disait aussi l'action risque de chuter également. Donc ça c'est normal et c'est prévu. Il y a encore une série de sujets qu'il évoque. La chose que je retiens c'est le dernier point et un point dont on avait déjà parlé il y a quelques semaines de ça. l'action, on s'attendait à ce qu'elle chute dans les mois qui ont suivi l'entrée en bourse. Et a priori, Facebook voit sur le long terme, et l'article de Business Insider fait une comparaison qui est intéressante, avec Amazon. Amazon a suivi une courbe, enfin, on ne sait pas où elle va aller, celle de Facebook, mais en tout cas, on estime qu'elle, enfin, certains estiment qu'elle pourrait être comparable. Ça a été assez bas au début chez Amazon, et au bout de, allez, 5-7 ans, la courbe a commencé à remonter. Aujourd'hui, Amazon est en bonne position. Donc, ce qu'il est en train de dire, en gros, c'est pas de la faute des employés, c'est même pas de la faute vraiment de la société. C'est juste les analystes qui sont en train de réévaluer la valeur de l'action. Et sur le long terme, Facebook est une société dont l'action devrait avoir une valeur intéressante sur le long terme. Jeff, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ou?
Ben, donc déjà pour préciser, le gus de Business Insider, c'est Henri Blodgett. Henri Blodgett, c'est un analyste très très connu du temps de la bulle, qui avait annoncé que la stock Amazon montrait à 1000 à l'époque, et qui s'était retrouvé lui-même dans quelques soucis avec la justice américaine, non pas parce que il avait fait des pronostics un peu fumette, mais ouais. Bon, il y a eu quelques soucis de position personnelle, etc. Mais en tout cas, c'est un mec qui est extrêmement bon et qui comprend très bien en fait toutes ces mécaniques, et surtout qui a regardé le marché public américain et les stocks tech depuis très très longtemps. Donc c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et effectivement, le problème de Facebook, tu les as cités, c'est la croissance qui diminue, c'est le passage vers le mobile, c'est le fait que il est pas clair que on voit dans le court terme une monétisation aussi efficace de Facebook, parce qu'ils doivent en fait trouver des vecteurs de croissance. Et donc aujourd'hui, avec un Facebook à une quarantaine de milliards, je suis en train d'essayer de voir à combien est-ce donc ils sont à 19 et des bananes. Et dans les 41 milliards de dollars, bon, c'est encore quelque chose de très riche. Donc sur le très long terme, c'est clair que Facebook est une boîte qui est très valable. Par contre, en tant qu'investisseur dans les marchés publics, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis en dessous de 20 c'est un bon deal, ou est-ce que tu dois attendre que l'action descende encore à en dessous de 15 ou en dessous de 12 ou en dessous de 10 pour rentrer? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des facteurs techniques qui font que l'action va baisser, au sens où il y a quelques jours, la semaine dernière, certains investisseurs ont eu la possibilité de vendre leurs actions quand on passe
et
sur
les
marchés publics.
Et des employés aussi. Il y a eu des employés, justement, qui étaient très...
Là, en l'occurrence, c'était des investisseurs. Donc, t'as le lock-up standard aux États-Unis, c'est 6 mois. Mais là, pour une raison qui m'a un peu échappé, t'as des investisseurs qui ont pu vendre au bout de 3 mois. Et donc, il y a eu énormément d'actions qui ont été... Oui, effectivement, t'as eu Peter Thiel, qui faisait partie, en fait, d'un espèce de pacte d'actionnaires où il se disait, bon, on sera capable de vendre après 3 mois un certain pourcentage de nos actions. Et le GUS, il en a largué 80%.
D'accord.
Donc, ce qui est quand même pas mal. Et donc... ce qui a posé des questions, puisque c'est un mec qui est encore sur le board, et s'il vend 80% de ses options ou de ses actions, est-ce qu'il croit encore au devenir de la société? Et donc, on sait que dans 3 mois, ou un peu moins de 3 mois maintenant, il y aura encore un putain de paquet d'actions qui va arriver sur le marché, puisque le lock-up sera fini, et donc les employés, les investisseurs, tout le monde peut effectivement vendre ses actions Facebook. Et donc, techniquement parlant, ça veut dire que le nombre d'actions disponibles pour une transaction va augmenter de façon énorme. Et donc, ça va faire descendre, par définition, le prix.
Plus d'offres.
Ça veut pas dire que Facebook est moins valable, c'est juste qu'il y a des raisons techniques pour cette descente. Et donc, il faut comprendre ces mécaniques-là avant de se dire, oh bah tiens, Facebook à en dessous de 20, c'est bien, parce que j'ai des copains, ils se sont dit, Facebook en dessous de 30, c'est super, on rentre en position et boum. Donc, faut comprendre, quoi.
D'accord. Effectivement, c'est important à savoir, et je te remercie de ce supplément d'analyse que j'aurais bien été incapable de faire moi-même. Autre sujet, tiens, juste pour revenir un tout petit instant sur Apple et Samsung, vous n'êtes pas sans savoir que Samsung, une autre partie de Samsung, est le fournisseur principal de certaines pièces des appareils mobiles Apple. Ils ont, et donc on pouvait se dire, avec ce procès. Peut-être que Samsung ne va plus vouloir vendre à Apple. Ils ont clairement indiqué aujourd'hui qu'ils allaient continuer à travailler avec Apple. Évidemment, c'est un marché tellement énorme qu'ils ont une sorte de firewall entre les différentes parties de la société chez Samsung. Donc, ça n'aura pas de conséquences chez pour les pièces détachées de chez Apple comme la RAM ou les processeurs. Autre, donc là on va passer sur la partie news et rumeurs vraiment un petit peu plus rapide. Le Nexus 7 est disponible en France. Vous pouvez aller sur le Google Play Store et commander votre Nexus 7. Comme on l'avait dit, c'est un appareil, une tablette de très très bonne qualité. Donc si vous êtes plutôt Android et que vous voulez une vraie bonne tablette 7 pouces, vous serez peut-être intéressé par le Nexus 7. Tu m'arrêtes hein, quand tu as des choses à dire. RIM étudie la possibilité de vendre son nouvel OS, le BlackBerry 10, à d'autres constructeurs, donc peut-être des licences BlackBerry 10 vendues à d'autres constructeurs. Est-ce que c'est pas un peu trop tard? On est en droit de se le demander. Il y a eu une sorte de...
On peut rire là ou... On peut rire ou on peut pas?
On peut. Oh, il a l'air pas mal BlackBerry 10, mais bon.
Ouais, tu peux le vendre à Nokia?
Ouais, un petit peu. Ah mais bon, le fait de vendre son, tu sais, ils ont quand même une bonne image avec les entreprises, mais bon, bref. Apple, il y a eu une sorte de je ne sais pas si c'est une panique, mais une sorte de vent de news qui est arrivé sur la blogosphère la semaine dernière en disant que Apple était la société à la plus grosse capitalisation boursière de l'histoire. Alors, c'est vrai de manière numéraire. Ils sont montés aujourd'hui à 637 milliards de dollars de capitalisation boursière. Mais certains ont fait remarquer, notamment chez TechCrunch, que si on prend en compte l'inflation, donc la valeur de la société à un moment T dans le cadre de son époque, c'est toujours Microsoft qui a qui tient le flambeau de la plus grosse capitalisation boursière, puisque avec l'inflation, Microsoft serait aujourd'hui, à l'époque où ils étaient au plus haut, aujourd'hui ça équivaudrait à 850 milliards de dollars, comparé aux 737 milliards d'aujourd'hui pour Apple. Donc il y a encore un petit peu de chemin, il est possible qu'ils y arrivent à un moment, mais ils n'y sont pas encore. Le glacier d'Amazon, on parlait d'archivage de données dans l'épisode précédent. Amazon a proposé une solution intéressante pour l'archivage sur le long terme. C'est un archivage qui coûte presque rien, je crois que c'est 1 cent par gigabit pour archiver, mais sur le long terme, c'est-à-dire que vous mettez toutes vos données quelque part, mais pour les récupérer, ça prend du temps, je crois 3 heures pour récupérer les données, et ça coûte un peu d'argent pour les récupérer aussi. Donc ça s'appelle Amazon Glacier, comme un glacier, hein, où les trucs sont glacés pendant un moment.
Et c'est un système,
voilà, c'est un système qui peut être intéressant si vous voulez archiver vos données sur le long terme.
Mais attends, c'est le void storage, ça, ils t'ont copié.
C'est un peu ça, ouais. C'est la même idée. Julian Assange a obtenu l'asile politique en Équateur. Enfin, pas tout à fait, c'est dans l'ambassade de l'Équateur à Londres. C'est une situation un petit peu ubuesque parce que l'Équateur n'est pas forcément connu pour son soutien de la liberté d'expression, et il se retrouve à défendre Assange contre les États-Unis ou la Suède, mais avec l'intermédiaire des États-Unis parce qu'il y aurait une déportation possible. Bref, c'est intéressant à noter, mais je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler parce qu'Assange a fait beaucoup, beaucoup de bruit avec ça. Et entre parenthèses, l'ambassade de l'Équateur est un petit peu surveillée par la police londonienne, parce que si jamais Assange sort, ils veulent le récupérer puisqu'il devrait être envoyé en Suède. Bon, c'est une histoire un petit peu bizarre. OnLive, ce service, j'aurais aimé que Yann soit là pour qu'on puisse en parler, mais OnLive a malheureusement dû se dissoudre et se reformer, racheté par un investisseur principal. Mais visiblement, la société était en mauvaise position, sans doute parce qu'ils avaient fait trop d'investissements dans trop de serveurs. Et le seul moyen, a priori, d'après ce qu'ils nous ont dit, de continuer à exister sans interruption de service, c'était de se dissoudre et de renvoyer 50% de leurs employés et de réemployer. En fait, ils ont renvoyé tous leurs employés, ils en ont réemployé 50%. Bon, c'est une histoire un petit peu sordide qui a animé la toile la semaine dernière, mais je voulais en toucher un mot rapidement quand même. La société continue à exister et les investisseurs y croient vraiment. Donc, ça ne veut pas dire que la société est morte. Vous vous souvenez, c'était ce service de jeux streamés qui vous permettait de jouer à n'importe quel jeu sans avoir une machine puissante, puisque vous ne receviez que la vidéo qui était calculée ailleurs par une console ou un ordinateur.
Enfin, les investisseurs y croient vraiment. Tous les investisseurs actuels, enfin de l'ancien Live, ils ont tout perdu.
Oui, donc, oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est les nouveaux investisseurs, effectivement. Mais c'était une opération financière et administrative un petit peu bizarre quand même. Visiblement, c'était parfaitement légal, mais c'est pas la plus commune, on va dire. Donc,
bon. Bah, c'est juste tu passes en banqueroute de manière à ce que tu puisses annuler toutes tes dettes. Tu négocies typiquement avec tes plus gros créanciers, comment est-ce que cette dette va être gérée, restructurée, réorganisée, et en gros tous les gens qui sont des actionnaires se font exploser et les gens qui ont de la dette deviennent les investisseurs et puis tu recommences quoi. Mais ouais. Effectivement, ça veut dire que tous les gens qui comptaient sur toi pour que ce soit des actions, des options, un plan de retraite, etc. Tout ça, c'est
ouais, c'était pas une bonne journée pour les employés d'OnLive et on espère qu'ils s'en remettront sans trop de difficultés. TOSDR, vous connaissez peut-être TLDR qui veut dire Too Long Didn't Read, donc c'est trop long, j'ai pas lu. Là, c'est TOS pour Terms of Service. Didn't Read, donc c'est un service qui est collaboratif, qui essaye d'analyser tous les Terms of Service, donc ces accords que vous cliquez sans vraiment les lire. Là, il y aurait un endroit pratique pour récupérer les informations essentielles de ces Terms of Service. Si vous voulez avoir des informations dessus, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, c'est sur tos-dr.info, tos-dr.info. Ustream, tes camarades et ceux qui nous aident à faire nos lives en direct quand je réussis à ne pas mettre à jour mon Mac quand il faudrait pas, ils ont lancé, ou ils lancent bientôt, un service qui s'appelle BFF, c'est Broadcast for Friends. Ils ont lancé Broadcast for Friends, qui est un truc assez sympa, c'est-à-dire que vous faites un streaming live, mais juste pour vos amis Facebook. Donc, vous pouvez, si vous êtes à une soirée ou avec à l'anniversaire de la petite nièce ou machin, vous pouvez commencer un streaming, mais vous le diffusez pas en live sur Internet pour tout le monde, uniquement pour vos amis Facebook. C'est une super idée, je trouve, et c'est vraiment quelque chose qui peut servir pour certaines personnes.
Ouais, Ustream est en train de sortir pas mal de produits intéressants, là, donc je peux rien dire, mais super. Ah. Go Ustream.
D'accord. Bah, Go Ustream, nous on les aime bien de toute façon, on les utilise depuis un moment et puis ils nous filent ce compte pro qui nous permet de vous diffuser les lives sans pub et de bonne qualité. Donc effectivement, c'est nos potes aussi. Adopi plus CSA plus Arcep regroupés dans une nouvelle agence qui aurait en charge de réguler tous les médias, y compris le net. C'est a priori ce qui va se passer. Je me passerai de commentaires, moi, avant de voir effectivement ce que ça donne. Je vous avoue que je ne suis pas hyper rassuré. Et je crois que c'est sur ce sujet un peu inquiétant qu'on va finir les news et rumeurs de l'émission. Il y avait d'autres trucs intéressants à discuter, comme le hack de cerveau dont Corben a parlé, qui permet de voir ce à quoi on pense juste en analysant les données de nos cerveaux. C'est un petit peu bizarre, mais bon, ça veut dire qu'on sera plus tranquille nulle part. Le Thin Touch de Synaptic, qui est un touchpad qui permet de voir avec quelle force on appuie sur le touchpad. C'est une innovation super intéressante. Moi, j'ai souvent dit que les touchpads, vous savez, les touchpads des portables, hein, des ordinateurs portables, les touchpads d'Apple étaient super, super agréables à utiliser. Peut-être que ce Synaptic pourrait donner une alternative intéressante, parce qu'avec la précision de la force avec laquelle on appuie qui est détectée, ça pourrait donner des interfaces d'utilisation vraiment, vraiment intéressantes. Bon, il y en aurait d'autres dont on peut parler, mais je crois que je vais effectivement m'arrêter là. Avant de se quitter, je vais vous lire quelques avis des utilisateurs, enfin des auditeurs qui nous ont laissé des avis sur iTunes, puisque vous le savez, on vous encourage toujours, et vous devez en avoir marre, mais c'est pas grave, on va le dire quand même, on vous encourage toujours à aller nous mettre des notes et des avis sur iTunes, parce que ça nous aide vraiment, vraiment pour être découvert par d'autres auditeurs qui vont regarder des podcasts intéressants sur iTunes. Si vous, vous pensez que d'autres personnes pourraient apprécier le rendez-vous tech et que ça pourrait leur servir, eh ben un bon moyen de le faire découvrir, c'est de faire ça. Vous pouvez faire comme Vilain Pabo qui nous a mis 5 étoiles en disant merci. Toujours agréable d'écouter vos avis, vos conseils ou simples éclairages sur l'actu IT. Cela dit, je préférerais un format hebdomadaire avec une durée de 45 minutes. Ça serait plus simple à écouter pour moi. Quoi qu'il en soit, merci. Merci Vilain Pabo. Je voudrais juste te dire que détrompe-toi. Je pense que si, même si on faisait un podcast hebdomadaire, on se démerderait pour qu'il dure une heure et demie quand même. Généralement, c'est le genre de piège qu'on se dit, allez, on va diviser en deux en faisant deux fois plus d'émissions. Et en fait, ça marche pas. On se retrouve à faire quand même un podcast aussi long. Hélas.
Il en faut pour les autres, c'est ça. Il faut que les autres podcasteurs aient accès.
Exactement.
À ton temps aussi. Sinon...
C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous êtes tous heureux de revenir avec la rentrée, de revenir dans vos boulots respectifs et de retourner au travail sous la grisaille de l'automne. Bon, on n'y est pas encore, il fait encore un
grisaille,
petit peu beau.
Grisaille. Quand oui. Je regarde dehors. Non, c'est tout bleu.
Toi, ça compte pas. Non, mais en fait, il fait très beau ici aussi. Enfin, en tout cas, à Paris. Donc, pour le moment, on est un petit peu épargné. Mais de toute façon, on sera de retour dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Jeff, pendant ce temps, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver?
En ce moment, je suis un peu busy, mais autrement, Jeff, J-E-F-F sur Twitter, Jeff Clavier sur Facebook. Jeff Clavier, le reste, partout ailleurs.
Ah, est-ce que tu as eu ton URL spécifique sur Google+ ?
Bah, ils me l'ont offert, mais j'arrive pas à retrouver comment je le récupère. Non, mais ça déconne. Hein.
Bah, bon, essaye d'aller sur l'adresse en question.
Ouais, bah c'est un 404, parce que je l'ai pas...
Ah, d'accord.
Parce que ils m'ont envoyé un truc... notification sur Google+ pour dire prends Jeff Clavier machin, ouais. J'ai pas accepté et puis maintenant j'essaie de le retrouver et j'arrive pas à le trouver. Il faut que je demande aux copains chez Google en disant hey, vous me mettez.
Bah, t'as de la chance, toi, t'as des copains chez Google que tu peux appeler. Mais moi j'ai cliqué là où il fallait cliquer, donc je suis google.com/plus Patrick Béja. C'est pas mal.
Ce que t'es fort. Et à quoi, t'es pas notre Patrick?
Bah non, mais sur Google, je suis Patrick Béja, donc... Non, sur Twitter, c'est notre Patrick, mais sur Google, c'est Patrick Béja. Sur Facebook, c'est aussi /notre Patrick, donc... Bon, essayez les deux, vous me trouverez bien. Et désolé pour la qualité un petit peu variable de la connexion de Jeff, mais vous savez, il est aux États-Unis, ils ont pas une bonne connexion Internet dans ce pays, hein, c'est un petit peu... ils y sont pas encore, ils y arriveront un jour, mais ça va un petit peu plus lentement qu'ailleurs. Les pauvres, faut les excuser.
Non, mais la réalité, c'est que je suis dans un endroit à Palo Alto où il n'y a pas de haut débit et donc j'ai 8 lignes DSL qui ont été banded.
Et tu vois, et même avec tes 8 lignes DSL, tu n'arrives pas à avoir une connexion correcte. Ça prouve la qualité, la supériorité indéniable sur le niveau des connexions Internet de la France sur les États-Unis. Ne serais-tu pas d'accord?
Ouais, enfin, je peux faire ça depuis la maison, à ce moment-là, j'ai 45 médias, mais bon.
Ok. J'étais sûr que t'allais dire un truc comme ça. Bon. Sur ce, on va vous laisser, chers camarades et auditeurs. On vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et, merci à toi, Jeff, de nous avoir rejoints pour celui-ci. Merci à tous. Ciao, ciao.
À ciao.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.